Nous allons profiter, enfin commencer par explorer un des tableaux que vous avez, d'ailleurs le grand tableau que vous avez à la fin de cette brochure, et qui récapitule un panorama général de l'histoire d'Israël depuis les origines. Alors, je vais essayer de vous expliquer brièvement ce tableau. Une minute, regardez, béni. Vous n'êtes pas en classe enfantine. Je t'en prie, tu me mets ça là. Je l'accroche là, j'arrive. Brochure traite de sujets qui ne sont pas forcément directement reliés à votre cours. Vous la lirez si ça vous intéressera, je suppose. Enfin, je vous ai fait distribuer ces brochures essentiellement pour les tableaux historiques qui vous donneront des repères, et en particulier pour une confrontation inévitable. Je suppose que Madame Nair, aussi dans votre cours d'histoire générale, vous donnera de la documentation à ce sujet. De la chronologie entre l'histoire d'Israël du point de vue de la tradition juive et d'autre part l'histoire universelle et les grands événements, surtout de la succession des grandes civilisations autour ou à l'extérieur de l'histoire d'Israël à proprement parler. Et alors, nous allons prendre d'abord un premier schéma. Vous allez suivre avec moi, je vous montrerai au tableau et vous suivrez sur votre plan, un premier schéma des grandes époques qu'a traversé l'histoire d'Israël. Il y a énormément de choses dans ce tableau, mais je vais suivre uniquement la ligne qui nous préoccupe aujourd'hui pour introduire la notion de diaspora. Ce sera l'objet de l'étude aujourd'hui. Bon, alors, ceux qui ont les tableaux en français, ça commence là. Ceux qui ont les tableaux en hébreu, ça commence là, mais c'est le même tableau. Vous arriverez à suivre ceux qui suivent en hébreu, oui. Et qu'est-ce qu'il y a les textes en hébreu? Top. Bon, alors il s'agit du tableau de la chronologie d'après l'enseignement biblique, et par conséquent, ici vous avez le commencement de l'histoire humaine avec le premier homme, Adam Arichaud. Alors vous avez toute une première partie qui s'appelle la première tentative historique. Nous expliquerons cela dans les cours du matin d'historiosophie. On y arrivera, je crois, en 3 ou 4 semaines, pour arriver à survoler cette première partie de l'histoire de l'humanité, d'après le récit biblique, qui aboutit au déluge. Vous voyez, c'est à peu près un peu avant la fin du deuxième millénaire, j'arrive pas moi à lire, c'est trop petit pour moi. Enfin, vous voyez à peu près vers quel chiffre vous avez là?
1650.
Oui, après... le commencement de l'humanité, j'ajoute toujours selon le récit biblique, parce que tout ça c'est plein de problèmes par rapport aux chronologies scientifiques entre guillemets. D'ailleurs dans cette brochure il y a toute une discussion avec la perspective universitaire de la conception de l'histoire et les problèmes que cela pose par rapport au calendrier biblique. Cette brochure a été faite par un de mes élèves de il y a longtemps, qui vit en Israël. Et c'est pas moi qui l'ai rédigé, alors faites bien attention, ne m'objectez pas sur des détails. Okay? Mais grosso modo, ça correspond un peu avec ce que je voudrais vous expliquer, mais pour le moment, nous suivons surtout les grandes périodes. C'est-à-dire, j'ai bien conscience que les questions de confrontation entre les deux types de calendriers sont énormes. Vous avez ici, donc, dans cette brochure, une manière d'envisager le problème, mais c'est pas le sujet de ce cours. Est-ce que c'est bien clair? C'est-à-dire, énormément de choses vous apparaîtront comme des postulats, et c'est inévitable et normal, mais nous reprendrons cela à l'occasion dans d'autres études. Alors là, la Torah nous raconte toute une première tentative de l'histoire qui aboutit à un échec, et cet échec est sanctionné par le déluge. Bon. La naissance d'Abraham va se faire quelques temps après. Non, quelques temps avant, c'est grave. Vous avez... Après une ligne que je vais suivre aussi là-dessus. C'est pas de votre faute, c'est mes yeux qui marchent pas. Vous avez ici, là, à la 48e génération. Oui, 20e génération, ça vous correspond. Vous avez le chiffre 48 là, vous voyez?
48.
Okay. C'est la naissance d'Abraham. donc un peu avant le déluge. En réalité, d'après certaines sources,
Oui, d'accord.
Alors, vous êtes donc là, oui, évidemment, à la 20e génération, je ne sais pas pourquoi j'ai hésité d'ailleurs, à la 20e génération, ça vous fait donc la naissance d'Abraham, après le déluge, en l'année
1948.
Alors faites attention, il y a ici une coïncidence, mais qui est purement une coïncidence. Ça vous dit quoi, 1948? Oui, mais avec un tout autre calendrier. Alors, ne me trompez pas. Bon à voir. Et donc, je reprends cette première partie. Bien. Ça, vous aurez à l'étudier en détail. Avec moi d'ailleurs. Et on a le même plan qu'on a vu ce matin. Un projet de l'identité humaine, le récit de ce qui s'est passé, un jugement et un bilan, le déluge. On recommence à zéro. Avec qui? Qui est rescapé de toute cette histoire?
Noé.
La famille de Noé. S'il y avait Noé tout seul, ça aurait pu être un recommencement, je ne veux pas dire à zéro, puisque Noé a tout ce passé, Noah en hébreu, a tout ce passé depuis le premier homme. Noah est donc à la 10e génération. Hein? C'est bien ça? Top. Mais avec lui, sa famille. Et sa famille comporte tout un faisceau d'identité qui va se déployer à partir de lui, mais qui hérite de ce passé antérieur, de ce que j'ai appelé ce matin les scories du passé. Vous vous rappelez? Mais voilà, vous avez déjà un autre exemple du même plan qui fonctionne dans le récit biblique. Bien. Et alors, la constitution d'Israël, de l'identité d'Israël, commence à partir d'Abraham, vous voyez, à la 20e génération, à partir du premier homme, selon la lignée de Chet, tout ça vous apprendrez en détail, et par conséquent, on ne peut pas parler de l'existence de l'identité d'Israël jusqu'à Jacob en réalité, puisqu'entre Abraham et Jacob, il y a trois générations de sélection d'identité, mais disons, en commencement de principe, à partir d'Abraham, et pourtant, d'une certaine manière, et nous verrons des sources, des textes à ce propos, d'une certaine manière, en potentiel, si j'ose dire, ou en filigrane, l'identité Israël se prépare à partir du commencement de l'humanité, mais elle n'émerge dans l'histoire qu'à partir d'Abraham, en réalité Jacob. C'est clair jusque-là? Bon. Et nous allons voir à travers quelle lignée se prépare cette identité qui s'appellera Israël à la troisième génération d'Abraham, c'est-à-dire Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. Vous suivez bien? Bon. Eh bien, c'est la lignée de Sem. En français, en hébreu, Shem, qui est un des trois fils de Noah. À partir de Noah, il y a trois lignées, mais c'est dans la lignée de Shem que va surgir cette identité qui sera nommée Israël, à partir d'Abraham, et avec, nous verrons, entre Shem et Abraham, un personnage extrêmement important, qui s'appelle... Qu'est-ce que j'ai entendu?
Entre Shem et Abraham,
oui, il y a 10 générations, mais là, il y a un personnage important, il s'appelle Terah, non, c'est le père d'Abraham seulement. Éver. Et qui donne son nom à la lignée des Hébreux. Voilà pourquoi c'est lui que je voulais citer. Vous y êtes? C'est-à-dire Abraham, qui apparaît là, Abraham sera appelé, par le texte biblique, Abraham l'Hébreu. C'est-à-dire que, depuis le premier homme, à travers Noah, qui est rescapé de la première période, à travers la lignée de Shem, l'identité hébraïque surgit, et finalement, elle est confirmée comme point de départ d'Israël avec Abraham. Abraham, l'Hébreu. C'est clair? Vous suivez bien cela? Bon, c'est un schéma extrêmement schématique. Et nous aurons d'autre part, dans les cours du matin, de l'étude du Sefer Bréchit à comprendre toutes les étapes qui se passent depuis Adam jusqu'à Abraham, pour comprendre premièrement qui est Abraham, puisque c'est le point de départ de notre identité, Israël. Vous comprenez déjà, rien que par ce survol de très brève introduction, que la sortie au monde, je ne sais pas comment dire, l'émergence, l'apparition de l'identité Israël n'est pas une chose simple, et qu'elle se prépare, il y a un engendrement littéralement surnaturel, comme nous le verrons, pourquoi je dis surnaturel, parce que l'être de nature, l'homme de nature ne pouvait pas être l'hébreu. Il y a quelque chose d'autre qui se passe, qui nous est raconté par la Bible, depuis le premier homme, en toutes ses étapes, jusqu'à la 20e génération Abraham. Mais il y a une étape importante, parce que c'est elle qui est nommée l'hébreu, c'est l'étape de Haïmoud. Ça y est, c'est clair? Alors, retenez bien maintenant ce nom de Hever. C'est ce qui va nous servir de fil conducteur de la recherche de ce qui arrive de l'identité hébraïque depuis l'origine jusqu'à nous aujourd'hui. Hein? Bien. Alors ensuite, je continue. Il y a la constitution de l'identité Israël à partir d'Abraham. Et vous allez suivre cette ligne-là. Hein? Première tentative historique, ensuite du déluge à l'Égypte. La famille de Jacob descend en exil en Égypte. Vous savez qu'en hébreu, pour dire quitter Eretz Israël, on dit descendre, et arriver en Israël, on dit monter. Enfin, ça, on l'apprendra encore d'autre part. La famille de Jacob descend en Égypte à ce moment-là.
Pourquoi est-ce qu'on fait commencer l'exil au moment de la naissance d'Israël?
Et on verra pourquoi. Et ça vous est marqué comme ça?
Oui.
Très bien. C'est exact d'ailleurs. Enfin, on verra ça. Rappelle-moi ça tout à l'heure, peut-être j'y arriverai. Et alors là, nous avons, dans cette période-là, le premier exemple, ou le premier modèle de ce que nous allons appeler une diaspora. Donc, si vous voulez, vous notez la première diaspora. C'est Égypte. Ça peut vous paraître un peu paradoxal, puisqu'on n'a pas l'habitude de parler de diaspora autant des Hébreux en Égypte. On dit comment ? L'exil. Très bien. Alors, un des premiers sujets que nous allons étudier, c'est la différence entre la notion d'exil et la notion de diaspora. Je vais terminer le panorama historique jusqu'à nous. Et ça va nous prendre au moins une demi-heure, mais enfin, ça vaut la peine déjà pour commencer. Je reprendrai peut-être encore souvent après le cours. Qu'est-ce que je disais? Oui, et ensuite, nous reviendrons à ces problèmes de définition. Alors, tout de suite, il y a une question qui devrait vous apparaître. Nous sommes au début de l'histoire d'Israël. Quel est l'étonnement ici?
Ça commence ailleurs.
Qu'est-ce que c'est cette histoire? Vous avez remarqué, depuis ce matin, on s'étonne. Ça détonne même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire anormale qui commence anormalement? Vous suivez? Il y a un problème énorme là qui se cache derrière et qu'on n'ose pas regarder en face. C'est l'histoire d'un peuple qui commence dans l'exil. Bon, vous avez fait ça comme question à étudier. Et c'est quelque chose qui est là, qui vous découvrez maintenant, qui a travaillé tellement profondément qu'énormément de juifs se sont laissés dire, comme on dit en français, par les goïms, qui avaient intérêt à le faire dire, que l'existence normale des juifs, c'était l'exil. Que l'existence normale des juifs, c'était l'exil. La preuve, ça commence comme ça. Que nous sommes un peuple qui, normalement, est un peuple dispersé. Alors que déjà aujourd'hui, je voudrais essayer d'arriver au point que vous voyez que c'est faux, que c'est complètement faux. Mais déjà, vous voyez ce qu'il y a derrière d'un point de vue idéologique. Déjà, avant de s'affronter deux perceptions de l'histoire juive, une qui est diasporique et l'autre qui est sioniste, pour employer déjà les mots clairs. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que vous voulez?
Non, je veux dire que ici, en hébreu, il y a marqué « Galout, Mitzrayim, Galout,
Galout ». Oui, « Galout », ça veut dire « exil ».
Et aussi « diaspora ».
Non. Diaspora, c'est un autre mot. Je ne suis pas arrivé là, mais exil se dira en hébreu galout. Diaspora, c'est un autre sens que je vous dirai tout à l'heure. Non, pas mélanger tout de suite. Et c'est pourquoi je vous disais, nous allons parler de cette première diaspora de l'Égypte, mais on n'a pas l'habitude de l'appeler diaspora en français. En français, on a l'habitude d'appeler l'exil, et c'est exact. Et en hébreu, exil, ça se dit galout. Okay? Mais tous ces mots-là, il nous faudra un quart d'heure chaque fois pour les élucider. Qu'est-ce qu'on veut dire en employant ces termes-là? Bon, je continue le panorama historique et on revient à toutes ces questions. Vous avez noté les questions entre-temps, okay? Mais les sujets que je vous pose. Bon. Alors, la sortie d'Égypte, elle, attendez, avant que j'oublie, en réalité, c'est pas la première diaspora. Nous aurons étudié, et je voudrais vous donner tout de suite les références. Donnez-moi un chumash, le Réchit. Et voilà, j'en ai un, ça va. Nous aurons à étudier dans l'histoire de la famille de Jacob, plus exactement dans l'histoire de Jacob lui-même, le modèle de toute diaspora, de tout exil, qui se passe dans l'histoire de la famille de Jacob. Je vous donnerai des références pour que vous lisiez déjà à l'avance les chapitres correspondants. Vous savez, ceux qui connaissent un peu déjà l'histoire des patriarches, que Jacob a dû s'enfuir du pays d'Israël à la suite de la rivalité, de la haine qu'il a avec son frère Ésaü, pour rappeler de cela, et il va se réfugier chez qui? Chez Laban. Qui était Laban?
Le frère à sa mère.
Le frère à sa mère. C'était donc son oncle, et qui va devenir son beau-père, d'ailleurs. Mais il était d'abord son oncle. Okay? Bon, grosso modo, la région où habite, enfin le pays où habitait Laban, c'est à peu près le Liban actuel, mais et un peu plus au nord. Vous voyez l'analogie, Lebanon, c'est le Liban, Laban, c'est le pays de Laban. Okay? Il se passe quelque chose entre Jacob et Laban, que nous vivons, entre Israël et le Liban d'ailleurs, à un tout autre niveau, un tout autre registre, si vous voulez. Je referme la parenthèse. Et ce n'est pas seulement le Liban, c'est aussi la région de la Syrie, le sud de l'Irak, enfin, ce qui s'appelle Aram Naharaim. Vous apprendrez ensuite ça en géographie, en histoire. Et là, pendant 20 ans, Jacob est chez Laban, et ça vous donnera la première référence de l'enseignement de la Bible sur la situation et la condition de l'exil. C'est le modèle de ce que le peuple d'Israël va vivre dans tous les autres exils, dans des registres différents. Mais le modèle central, comment dire, en gros plan, c'est dans l'histoire de Jacob chez Laban. C'est là que si nous voulons comprendre ce qui se passe pour Israël par rapport à ces questions, cette histoire anormale qui commence par un exil, et quel est le fonctionnement de cette histoire de l'exil pour Israël, eh bien le premier modèle, c'est Jacob chez Laban. C'est clair jusque-là? Ensuite, on nous fait comprendre plus. Lorsque la Torah raconte, ça c'est dans le livre de l'Exode, raconte ce qu'a été l'exil des Hébreux en Égypte. On comprend encore plus lorsqu'on va nous raconter le deuxième grand exil, celui de Laban, c'est le modèle individuel, si vous voulez, des patriarches. Le deuxième grand exil qui va être là, qui va commencer là, et qui nous est raconté dans le livre d'Esther. Après on va arriver de notre temps. Bon, voilà une première indication. Alors, je vous donne les références que vous noterez sur ce sujet-là. Alors, vous avez tous ces récits, bon, à partir de Vayetse, c'est-à-dire... Bon, c'est toujours dans la Genèse. À partir du chapitre 28, verset 10. Et ça va jusque chapitre 33-34. Enfin, en réalité, jusqu'à la fin du livre de la Genèse, mais jusqu'au chapitre 33-34, vous avez ce récit de Jacob chez Laban, l'aller, l'exil lui-même et le retour. Et toutes ces péripéties nous sont données d'abord pour nous raconter l'épisode en lui-même, mais aussi comme préfiguration, modèle de compréhension de ce que sera le fait de diaspora ou le fait d'exil. Donc il y a deux niveaux parallèles pour l'histoire d'Israël. Est-ce que c'est clair jusque-là? Alors je continue dans cette récapitulation. Maintenant, pour la chronologie, ou plus exactement pour la datation, vous réintégrez vous-même, dans ces éditions, on vous a pas mis la datation du calendrier chrétien, mais vous l'avez à partir d'ici, vous voyez, chronologie chrétienne, c'est-à-dire l'année zéro, la chronologie chrétienne, vous l'avez là, correspondant à quelle année ici, je pense
1776.
Bon, il y a des petites controverses entre les historiens, si c'est 60, 70, 72, 71 du calendrier hébraïque par rapport à l'année zéro du calendrier chrétien, mais ici vous avez le plan, du moins la structure de l'enseignement de la tradition, pas des historiens, des juifs. Vous voyez un peu la différence. De 2 ans. Oui, mais ça n'a aucune importance, c'est de toute façon un calendrier. On suit donc au niveau du calendrier hébraïque. Vous avez, je pense, ici, à partir de là, la datation selon le calendrier musulman. Bon, donc vous restituerez vous-même, si j'ose dire, les dates en calendrier julien, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, le calendrier chrétien. Quel ? Comment ça s'appelle déjà, julien ? Grégorien. C'est pas le julien ? Ah oui, c'est celui des orthodoxes. Oui. Et en prenant à partir de 3060, moins 1, moins 2, vous voyez ce que je veux dire ? Okay. Top. Alors je continue. Là, sortie d'Égypte sous la direction de Moïse. Vous suivez ? Bon. Et va commencer une première période où Israël, non plus comme au temps des patriarches, en tant qu'une famille, un individu et sa famille, mais Israël, sorti d'Égypte comme nation, comme peuple, va être relié à Eretz Israël. Alors on l'a appelé Israël sur sa terre. C'est la première période. Okay. Vous suivez? Et ça, vous allez suivre parallèlement cette ligne-là. La dernière ligne en bas. Okay. Vous voyez, depuis le déluge, résider sur la terre d'Israël jusqu'à ce temps-là. Qu'est-ce que vous avez marqué ici? Plus fort. Oui. La lignée de Shem. La lignée de Shem a résidé sur le pays jusqu'à l'épisode de la tour de Babel. Alors vous allez prendre une note importante. C'est important de savoir que ce pays qui va s'appeler le pays d'Israël à partir de la sortie d'Égypte appartient en héritage à la lignée de Shem, en particulier à Éver. Or, il va être, à partir de là, occupé par un peuple qui ne fait pas partie de la lignée de Shem, qui est Canaan, Canaan en français, et qui fait partie de quelle lignée, Canaan? Non, j'interroge les élèves.
C'est Ismaël.
Hein? Ismaël? Il y a des petites choses à corriger là. Ah, très bien. Bon, ça vous allez réapprendre un peu plus en détail. Quelles sont les trois filles de Noir, les trois grandes lignées? Shem, Ham, Yafet. Qui a dit Jephté? Non, c'est Japhet, pas Jephté. Jephté, c'est un tout autre personnage. Tu as entendu parler d'Iphigénie? Eh bien, c'est pas son père. Mais la fille de Jephté, ça correspond. Non, Jephté, c'est à ce moment-là, dans le temps des juges. Okay. Là, c'est Japhet. C'est ça qui t'a Japhet. Alors donc, c'est la terre d'Israël qui était occupée par les fils de Shem. Comment on dit en français? Les Sémites. Okay. Est occupé par Canaan, qui est un peuple très important de la lignée de Ham, les Hamitiques. Et à ce moment-là, ces lignées des Sémites, et en particulier la famille de Héver, sont en exil. Et la famille de Héber, d'où va naître Abraham, est précisément en exil en Mésopotamie. Vous y êtes ? Voilà ce que je suis en train de vous expliquer. C'est que le pays qui deviendra le pays d'Israël, c'est l'héritage de la lignée de Shem, mais qui a été conclu après l'épisode de la tour de Babel par un des peuples de la lignée de Ham, et que la lignée des Hébreux était en exil. Vous allez déjà ouvrir une note importante qui va faire partie de l'analyse du cours, là où en général les fils d'Israël sont en exil. En général, quand les communautés juives, en tant qu'elles sont les descendants des Hébreux, ou les Hébreux à cette époque, les fils d'Israël, dans le sens général, sont en exil, ils sont en exil où ? Bon, chez les autres, mais où ? En particulier. Quel est par exemple aujourd'hui le grand foyer de diaspora ? En Russie ?
C'est toujours là où s'est développé.
Ça où s'est développé quoi ?
La culture.
Très bien. Là où se passe la civilisation du temps. Vous suivez ? Vous avez compris ce que je veux dire ? Là où se développe la civilisation du temps. On pourrait hésiter entre la Russie et l'Amérique, mais il est évident que la diaspora face à Israël, par rapport à Israël, c'est pas la Russie, c'est l'Amérique. C'est clair ? Non, je vous ai cité cela, c'est pas si simple que ça, mais je vais citer ça simplement comme exemple. Comme exemple de cette règle-là. Lorsque la famille des Hébreux, Abraham n'est pas encore né, il va naître là-bas, dans l'exil de Ur-Kasdim, de Mésopotamie. Lorsque la famille des Hébreux est en exil, pendant que la terre des Hébreux, la terre hébraïque, est occupée par les Cananéens, alors où la famille des Hébreux est en exil, là où se passe la civilisation. Et à l'époque, c'était, vous avez fait des mots croisés, Ur en Chaldée, ça vous dit quelque chose ? Alors on continue. À la sortie d'Égypte, Israël sur sa terre, alors on vous a mis ici, après les Cananéens, au moment de la sortie d'Égypte, alors Israël revient dans le pays et se heurte aux Cananéens. Il y a toute la péripétie de la reconquête du pays par les Hébreux, à partir du temps de Josué, vous suivez ? Okay. Tout le monde se repère dans ce repérage. Et là, alors mes amis, ce sont les enfants d'Israël qui occupent le pays. Jamais complètement, entièrement. Et vous voyez que l'histoire recommence toujours, jusqu'au moment où c'est toujours repris, jusqu'au moment où ça va réussir. Mais c'est l'époque où il y a une, disons, et ça a pris des générations, jusqu'au roi David et après, une souveraineté d'Israël sur la terre d'Israël. Mais nous sommes toujours à l'intérieur de ce même étonnement. Comment se fait-il que cette histoire commence dans l'exil ? Vous suivez ? Bien. Ensuite, il y a la période du premier temple. Qui dure jusque là. Et puis... Et qu'ici se passe quelque chose que vous allez suivre avec moi rapidement. Est-ce que c'est suffisamment visible ? Qu'est-ce que vous avez là ? Là, vous avez écrit quoi ? Royauté d'Israël. Et là, qu'est-ce qui correspond ? Royauté de Juda, où c'est écrit ? Des minutes. Okay.
Ça doit être écrit quelque part là.
Là, oui. Voilà. Alors, oui, ici, dans toute cette période-là, Israël sur sa terre, dans la constitution du peuple à partir du temps des patriarches, et cette constitution se fait en Égypte, vous voyez, puis sorti d'Égypte, c'est un peuple uni au niveau national, une seule nation qui sort d'Égypte, et puis très rapidement, après le temps du roi Salomon, cette ligne-là, ça doit représenter le schisme qu'il y a entre. Non, ça c'est début de la dernière, mais c'est à peu près là, un peu avant. Il y a un schisme entre les 10 tribus du Nord, qui s'appellent le Royaume d'Israël, vous suivez ? Avec pour capitale, quelle était la capitale du Royaume du Nord ? Hein ? Qu'est-ce qu'il dit ? Non, pas Hébron. Samarie. Chomron. Okay. et puis le royaume du sud qui s'appelle le royaume de Juda, qui ne groupe que 2 tribus et demie, tout ça vous l'apprendrez en détail, et qui a pour capitale Jérusalem. Et dès cette époque-là, les 10 tribus très rapidement se perdent dans le paysage de leur exil. Nous aurons à étudier pourquoi. Ce qu'il faut savoir, je vous le dis déjà à l'avance, c'est que de notre temps récemment, on est en train de retrouver les descendants de ces 10 tribus perdues. Et déjà, à l'époque où nous vivons aujourd'hui, nous avons des signes que des populations au nombre de plus d'une 30 millions d'individus qui vivent dans l'Afghanistan, le Pakistan, le nord de l'Inde et dans d'autres... Non, je parle que de cette... ce qu'il y a en Amérique, ce n'est pas des tribus perdues. Un petit peu, oui. Les Pashtous, c'est très peu en Iran. C'est surtout en Afghanistan et au Pakistan. Et finalement, il est possible... Bon, ça, vous aurez un exposé précis là-dessus par quelqu'un qui est spécialiste de la question. Mais il est possible que, dans les temps qui viennent, se dévoile un événement qu'on attendait depuis 2000 ans, mais assez inattendu, la réidentification de ces tribus perdues dans ce paysage de la civilisation babylonienne de ce temps, c'était tout ce territoire où les 10 tribus du royaume d'Israël avaient été exilés, mais se sont fondus dans le paysage, ce qui n'est pas le cas des exilés de Juda qui ont donné les Juifs. Vous suivez la différence? Ou alors, en d'autres termes, ces anciens Israélites, les 10 tribus d'Israël du royaume du Nord, c'est les 10 tribus perdues, en réalité c'est 9 tribus et demie, et puis on ne les retrouve que de notre temps. Et je ne parle pas d'un tout autre phénomène, qui est le phénomène des Maran, c'est-à-dire des descendants de Juifs, ou des Juifs descendants de Juifs qui se sont camouflés comme chrétiens ou comme musulmans, et puis qui ont gardé secrètement leur mémoire juive. Ça, c'est le phénomène des Maran. Là, c'est un tout autre phénomène, des tribus perdues. Bon, je referme cette parenthèse-là, mais après, c'est également important. Alors, nous avons, en fin de compte, la destruction du royaume de Juda lui-même. Vous voyez, ici, il y a la destruction du royaume d'Israël. L'exil des 10 tribus perdues commence là. Donc, et on ne le retrouve que dans notre temps. Nous sommes à peu près ici.
L'exil d'Assyrie, c'est le début de l'exil.
Là ?
L'exil d'Assyrie.
Assyrie, A2S. L'Assyrie, c'est A2SY. C'est la Mésopotamie que je vous ai dit. Ou la Babylone. C'est grosso modo à peu près la même chose. Je viens de lire d'ailleurs dans les journaux qu'il y a des travaux qui sont en train d'être faits pour essayer de démontrer que les Japonais feraient partie de ces 10 tribus perdues. Mais du peu que je connaisse de la question, c'est de la légende. Il y a chez les Japonais, au Japon, pas chez les Japonais, mais ce n'est pas des Japonais, des tribus qui s'appellent les Ainu. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'eux. Ce sont des tribus blanches au Japon. Ceux-là sont peut-être du même genre que les Pashtus, etc. Mais en tout cas, pas les Japonais, vraiment. Il y a énormément de Japonais qui se rapprochent du judaïsme, c'est un tout autre phénomène. Mais ce n'est pas qu'ils seraient des descendants de... Il y a énormément de légendes là-dessus. Si vous voulez, je vous en raconter une comme anecdote, mais ça n'a que des bases légendaires. Par exemple, les Britanniques se sont prétendus être des descendants des 10 tribus. C'est des îles comme le Japon, mais enfin... Et seulement, c'est mythique tout cela. Tout ce que nous pouvons savoir de certains aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement des tribus dans ces régions que je vous ai décrites, l'Afghanistan, etc., qui, eux, ont des traditions. Et même parfois, leur nom l'indique, le nom des tribus. Et certaines petites coutumes. Alors, parfois, c'est resté de façon visible. Parfois, s'il faut le deviner, c'est pas évident. Mais enfin, je vous ferai venir quelqu'un qui est en train d'étudier la question sur place et qui vous fera un exposé là-dessus. Au moment où on arrivera à ces problèmes... Mais ça n'a rien à voir, ça ce sont des faits historiques, ça n'a rien à voir avec ces prétentions mythiques de certains peuples christianisés par la suite qui se sont prétendus être le nouvel Israël de l'Alliance, par exemple les Britanniques. Bon. Et alors, voilà, une de ces légendes, je me réfère ici à un livre écrit par un auteur très connu et très important, qui s'appelle Stéphane Miloge, et qui situe par exemple les Ibères. Vous savez ce que c'est que les Ibères? La péninsule ibérique, Portugal, Espagne. Que les Ibères seraient des Hébreux. Vous voyez, Ibères, Hébreux. Méfiez-vous de ces mythes linguistiques. Alors qu'effectivement, on finit par trouver dans le basque et dans l'hébreu des caractéristiques communes qu'il n'y a que dans ces deux langues. Le basque faisant partie d'un groupe assez mystérieux de langues européennes qui ne sont pas tellement européennes, où il y en a trois au moins de connues, le finlandais, le hongrois et le basque, et qui ont des caractéristiques communes. Et alors chez les Ibères, et puis il se passe quelque chose entre les Juifs et les Espagnols. Okay? Alors oui, Ibères, Ivrim, mais méfiez-vous de ça. Alors il raconte toute une légende, qu'une de ces tribus perdues, la tribu de Dan, serait passée par la Grèce. Vous avez entendu parler des Danaïens dans l'histoire grecque, Timéo, Danaos, top. Et puis alors aurait emprunté la vallée du Danube, suivez bien, serait arrivé au Danemark et aurait conquis l'Angleterre. Bon, alors c'est très joli, mais c'est des légendes, c'est clair. Et c'est pourquoi les Britanniques se sont prétendus être les hommes de l'Alliance. Comment on dit un homme de l'Alliance en anglais? British. Oui, l'homme de l'Alliance. Ça y est, ils vont faire des cauchemars. Alors, c'est assez mystérieux tout ça, bien que ce soit légendaire. On ne peut pas ne pas remarquer que qui a diffusé la Bible dans le monde? Pas les Juifs, les Anglais. Vous avez remarqué ça? De qui on a reçu Eretz Israël? Des Anglais. Bizarre tout ça. Et on a des comptes à régler avec les Anglais. Mais tout ça, c'est de la légende. Okay? Ça n'a rien à voir avec la réalité historique de ce problème des 10 tribus perdues. Ça y est, c'est clair? Bon, alors je reviens au...
La tribu des Makuya au Japon...
C'est pas une tribu, c'est une secte qui se rapproche du judaïsme. Mais c'est d'authentiques japonais, c'est pas des descendants d'hébreux. Bon, je veux pas être tellement catégorique, parce que, après tout, on sait jamais, le monde entier, c'est peut-être des hébreux. Okay? Mais... vous avez lu Pierre Fitte? Oui. Alors d'après Pierre Fitte, tous les aristocrates d'Europe sont des descendants de juifs. Ken. Bon. Ken.
J'avais lu chez les Gibarons, un veuf épouse la sœur de sa femme.
Oui.
Et ça s'approche du Yiddish.
Mais tu sais, chez les musulmans de la péninsule arabique, on se circoncit. Hein, ça rapproche des juifs. C'est cependant
ça,
pas des juifs. Non, je veux dire, à partir du moment où une vérité, une, a éclaté un peu partout, eh bien, un peu partout, vous trouvez des traces. Tu comprends? Un peu partout, il y a des traces, il y a des étincelles. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des Hébreux. Okay? Fais bien attention à ça.
Ils ont parlé de Manassé Ben Israël. Manassé Ben Israël, on en a parlé pas mal en France l'année dernière, qui avait entendu parler d'un peuple en Amérique.
Mais pourquoi vous avez entendu parler de Manassé Ben Israël? Il y avait un anniversaire ou quoi?
Non, il y a eu deux émissions à Paris.
À Paris?
Oui.
Oui, mais non, j'ai pas entendu, moi je suis pas là-bas. Et alors? Mais à quel propos il y a eu ces émissions?
Il y a eu le livre qui a été écrit sur Manassé Ben Israël.
Probablement. Eh bien, si vous voulez, dans tous les voyages des conquérants, il y avait des juifs avec eux. Et puis qui se sont perdus en Amazonie, en Amérique centrale. Et qui ont fait souche chez les Indiens, ou pas chez les Indiens, et qui ont gardé des souvenirs. Ça, c'est un phénomène de maranisme. Vous comprenez? Par exemple, vous avez entendu parler de la secte des Mormons? Bon. C'est une secte colossale, énorme. Bon, et ils se prétendent une des tribus d'Israël. Alors que ce sont d'authentiques goïms convertis au christianisme de façon spéciale. Vous voyez à peu près ce que je veux dire? Et des descendants d'Européens, d'ailleurs. Bon. Alors, ne vous perdez pas dans ces légendes. C'est très intéressant au point de vue culturel. Ça n'a aucun sens au point de vue traditionnel.
Est-ce qu'il y a des preuves historiques pour les morts qui se sont...
Mais nous avons toutes les preuves que ce n'est pas des Hébreux.
C'est pas des...
Ah ben, vous, les Falachas, ça n'a rien à voir. Alors, les Falachas, ce sont des tribus éthiopiennes qui étaient en cheminement de conversion au judaïsme, qui se sont arrêtées à un certain stade, qui ont fait souche, qui se sont crus les seuls juifs au monde, et puis finalement on les retrouve de notre temps, mais c'est pas non plus des descendants d'hébreux. Bien qu'ils ont énormément de coutumes qui ressemblent à celles des juifs. Alors il est probable qu'il y ait eu, il y a quelques siècles, un phénomène de conversion au judaïsme, qui s'est dégradé ensuite. Mais s'il y a eu conversion au judaïsme, on les considère comme juifs. Bon, il y a eu toutes des dizaines d'années de d'hésitation et d'études sur la question. Finalement, on les intègre avec une conversion de principe pour régulariser par scrupule. Il est probable qu'il y ait eu une conversion au judaïsme, mais s'il y a conversion, ils deviennent des juifs, sans problème. Seulement, ce n'est pas des descendants d'hébreux. Vous comprenez le problème ? Alors, toutes les légendes, la reine de Saba, tout ça, c'est très intéressant. Mais ne confondez pas avec l'histoire traditionnelle. Okay. D'où tu sors ça?
Non, mais c'est vrai. Je ne l'ai pas lu dans la
tête. T'es dans ta tête, tu as trouvé ça?
Non.
Tu as lu ça où?
Je l'ai entendu, mais je ne sais pas que ça.
Alors méfiez-vous de ces bruits. Hein?
Mais
pourtant, tu t'appelles pas Jeanne d'Arc.
Non.
Non, ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? C'est un autre problème, pas aujourd'hui. C'est un autre problème. Mais c'est clair, quand même. Les Hébreux et leur descendance, et ceux qui s'adjoignent à eux. Et une fois qu'ils se sont adjoints à eux, et que c'est régularisé, la descendance, c'est aussi des Hébreux. Vous comprenez ce que je veux dire ? L'identité hébraïque va devenir une nation, une identité collective. À l'échelle individuelle, on peut s'y intégrer. Et alors, on s'intègre à l'identité collective. Bon. Mais le fait que des peuples à entières se prennent pour Israël... ça fait pas d'eux des tribus d'Israël. Est-ce que c'est clair? Par exemple, les Irim Shrovim, comment on dit ça en français, les Noirs hébreux qui a Dimona. Bon, c'est d'authentiques fumistes, ces gens-là. Et alors que ce sont des gens qui ont leur propre valeur, leur propre culture, leur propre religion, en quoi ils sont fumistes, je m'excuse du terme, c'est quand ils se prétendent être les vrais juifs. Alors que ce sont d'authentiques Noirs, et ils ont le droit d'être Noirs. Un chimpanzé, c'est un chimpanzé, et un babouin, c'est un babouin. Et un noir, c'est un noir, et un blanc, c'est un blanc. Et les deux sont des hommes, comme les deux sont des singes. Là, je m'en suis bien sorti. cette prétention d'être le véritable Israël, nous allons la rencontrer avec l'interpellation chrétienne. C'est-à-dire d'authentiques goyim, mais il n'y a aucune honte à être goy, et chacun est ce qu'il est, puisque, comme je vous ai dit, qui se prétendent Israël, subitement, pitom. Alors, ça fait d'eux des descendants d'Israël? Évidemment pas. Maintenant, ne confondez pas avec le... Chaque fois que je rencontre un curé, je reste perplexe devant un mystère. Okay. Un Romain qui se prétend être hébreu. Comme disait Rabbi Astérix, ils sont fous, ces Romains. Vous suivez? Faites bien attention à ça. Ne vous laissez pas envelopper dans la farine lactée. Parce qu'ils sont anti-juifs. Comment devenir juif, ça va pas? On retrouvera ce problème. Hein?
Ils veulent être hébreux, mais pas juifs.
Ils veulent être ce qu'ils sont, mais ils prétendent être Israël. Remarquez bien que, pas seulement l'identité d'Israël est réclamée par le monde entier, la terre d'Israël est réclamée par le monde entier, le livre d'Israël est réclamé par le monde entier. Et vous êtes au centre d'un maelstrom de réclamation. Sa réclamation. Quoi? Le guichet fermé, oui, comme dit. Allez, on revient au problème. Bon, les 10 tribus perdues, ça nous a mené à parler de tout cela. Ne confondez pas avec le phénomène du maranisme. Or, les maranes sont vraiment des descendants de juifs, donc d'hébreux. Vous suivez? Mais ils ne font pas partie du peuple juif parce qu'ils en sont sortis. Et pourtant, ils se rattachent dans leur passé à ce peuple. Mais on reprendra tous ces problèmes avec notre notion de diaspora et vous verrez à quel point... Pratiquement aujourd'hui, je schématise un peu, peut-être même trop, mais on l'étudiera, tous les juifs de la diaspora sont dans le cas d'être des maranes, à des niveaux différents. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Je pense que c'est suffisamment clair. C'est-à-dire, ce sont des juifs qui se présentent comme étant membres d'une autre nation, mais qui se rappellent quand même qu'ils sont juifs. Par exemple, un juif qui dit qu'il est français, eh bien, c'est un maran. Mais dans un pays beaucoup plus libre que pouvait être l'Espagne de l'Inquisition. Mais c'est le même processus. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, il est comme les goyim dans la vie publique, et dans la vie privée, il est juif. C'était ça le maranisme. Seulement, dans l'Espagne de l'Inquisition, la vie privée, c'était les caves. Tandis que la France est un pays libéral, la vie privée, ça peut être la rue Copernic. Et vous voyez ce que je ne veux pas dire. Oui, je trouve ça va, cette histoire-là. Bon, alors il faut bien réfléchir. Et en général, ces juifs qui se disent français sont nés parfois dans d'autres continents, même pas dans d'autres pays. Est-ce que c'est clair? Parce que, par exemple, pour se dire français, il faudrait premièrement être européen. Or, il s'agit la plupart du temps de juifs nés en Afrique. Alors, c'est très clair, puisqu'en réalité, Israël est en Asie. Oui. Bien, alors revenons à notre problème. Alors, oui, que le phénomène de diaspora, c'est pas un phénomène simple. Alors, on reprend le panorama historique. Où est-ce qu'on est arrivé? Là, à peu près. Vous voyez? Alors, ici, les... Qu'est-ce que vous avez marqué, là?
C'est
ça. C'est la destruction du royaume du Nord, des dix tribus, qui sont exilées dans la grande civilisation assyrienne, si vous voulez, qui est la civilisation babylonienne,